Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. Au-delà des condamnations internationales, que faire face à la turbulente Corée du Nord et son sixième essai nucléaire? C'est la question qui va irriguer une bonne partie de ce journal. Aux États-Unis, Donald Trump prépare sa riposte et a déjà tweeté à plusieurs reprises pour dénoncer, je cite, un État voyou. Nous serons en direct avec notre correspondant permanent, Grégory Phillips. Puis nous irons en Chine, au sommet des BRICS, où Xi Jinping et le président russe, Vladimir Poutine, appellent à une réponse appropriée. Enfin, nous serons avec notre spécialiste Juliette Morillo pour évaluer les risques d'une escalade et plus globalement, le changement de paradigme qui s'impose face à Pyongyang qui ne comprend pas les sanctions internationales. Dans le reste de l'actualité en Allemagne, impossible de louper le débat de ce soir entre Angela Merkel et Martin Schulz. Les deux candidats aux législatives de la fin du mois ne s'affronteront qu'une seule fois à la télévision. Cyril Sauvageau va nous résumer les enjeux. Et puis en France, l'avocat du socialiste Boris Faure va porter plainte contre le député de La République En Marche, Emjid El Guerab, pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Député mis en examen et accusé d'avoir violemment agressé le cadre PS, l'affaire est suivie par Grégoire Le Callot. Au sommaire de Dimanche et Après, Julie Gacon.
Eh bien, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée et désormais chaque dimanche en direct, cette fois dans les studios de la Maison de la Radio pour l'émission Dimanche et Après. Tout comme Aurélie Luneau tout à l'heure, nous parlerons des états généraux de l'alimentation, mais vu cette fois depuis les agriculteurs, comment redonner un peu d'air aux prix agricoles toujours en asphyxie? C'est la question que nous poserons à nos invités.
Merci Julie et à tout à l'heure, 18h15. Donald Trump avait promis le mois dernier à la Corée du Nord le feu et la fureur à l'occasion de deux essais réussis de tirs de missiles balistiques intercontinentaux. Il va sans dire que le président américain a tout de suite réagi à la nouvelle provocation du régime de Kim Jong-un. Nouvel essai nucléaire la nuit dernière, le sixième d'une puissance sans précédent selon Pyongyang. L'explosion d'une magnitude de 6,3 a été ressentie dans toute la région Asie-Pacifique et elle réveille cette explosion les inquiétudes de la communauté internationale qui demande un durcissement des sanctions contre la Corée du Nord. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant permanent à Washington. C'est via son compte Twitter que Donald Trump a d'abord réagi.
Oui, trois messages dès l'aube pour dénoncer cet essai de bombe à hydrogène. Les actions de la Corée du Nord sont très hostiles et dangereuses pour les États-Unis, écrit le président américain. La Corée du Nord est un État voyou qui ne comprend qu'une seule chose. Trump ne précise pas s'il pense à la force ou à des sanctions plus lourdes. Le président américain souligne aussi l'impuissance de la Chine, placée dans l'embarras par les agissements de Kim Jong-un. Ici, en tout cas, la plupart des analystes décrivent ce sixième essai nucléaire comme une nouvelle provocation à l'égard des Américains et à l'égard de celui qui, en août, vous l'avez dit, avait promis à Pyongyang le feu et la colère. Ce dimanche, Trump va en tout cas réunir son équipe de sécurité nationale alors qu'on est à la veille d'un jour férié aux États-Unis. La Maison-Blanche fait savoir qu'elle suit de très près l'évolution de ce dossier. Il y a quelques minutes, un reporter qui a interrogé Donald Trump à la sortie de l'église et qui lui demandait s'il comptait attaquer la Corée du Nord. Eh bien, le président américain a simplement lâché « Nous allons voir ».
Merci Grégory Phillips pour vos explications. Vous étiez en direct de Washington. En Europe, vive inquiétude également. Le président Macron, la chancelière Merkel et le chef du gouvernement italien Gentiloni se sont parlé. Ils exigent une réaction internationale forte et se disent favorables à un durcissement des sanctions. En Asie-Pacifique, le Japon juge inacceptable cet essai. La Corée du Sud demande la punition la plus forte et condamnation également de Pékin, allié traditionnel de Pyongyang. La Chine a peur d'être touchée par des radiations. Un plan d'urgence a même été déclenché le long de la frontière avec la Corée du Nord pour vérifier les taux de rayonnement. Et c'est au sommet des BRICS qui se tient aujourd'hui en Chine que le président du pays s'est exprimé, Angélique Forgé.
Une ombre sombre se profile dans le monde après plus d'un demi-siècle de paix. Avec ces mots, Xi Jinping, le président chinois, évoque sans le nommer le nouvel essai nucléaire mené par la Corée du Nord. Seules les négociations peuvent éteindre la flamme de la guerre, a-t-il ajouté lors de son discours d'ouverture du sommet des BRICS, qui se tient en ce moment dans le sud-est de la Chine, entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine donc et l'Afrique du Sud. En marge de ce sommet, le président chinois s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine. Ils se sont mis d'accord pour atteindre ensemble le même but, la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Quelques heures plus tôt, le ministère des Affaires étrangères chinois avait condamné vigoureusement ce nouvel essai nucléaire, le plus puissant à ce jour. Mais la Chine ne compte pas pour autant changer de stratégie. Elle continue de prôner le dialogue pour résoudre la crise nord-coréenne. Car Pékin ne veut pas voir la dictature de Pyongyang s'effondrer. Cela provoquerait un afflux massif de réfugiés nord-coréens sur son sol et engendrerait une présence militaire américaine à la frontière chinoise, une chose impensable pour Pékin. Malgré tout, la Chine prend de plus en plus ses distances avec la Corée du Nord. Elle a voté en août dernier à l'ONU en faveur des sanctions économiques contre Pyongyang. Et cette semaine, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a rappelé que la Chine prenait la situation très au sérieux. Elle a déclaré que ce qu'il se passait en Corée du Nord n'était ni un film, ni un jeu vidéo.
Correspondance à Shanghai, signée Angélique Forgé. Que cherche Pyongyang à travers ce nouvel essai nucléaire et quelles peuvent en être les conséquences? Pour en parler, nous sommes avec Juliette Morillo, coréanologue et auteure de La Corée en 100 questions aux éditions Talendier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être en direct pour analyser ce sixième essai nucléaire de Pyongyang. Nous étions en Chine à l'instant, la Chine, où l'explosion a été fortement ressentie par les habitants de la zone frontalière coréenne. Vous pouvez nous parler de la puissance de cet essai de bombe H?
Alors, sur les six essais nucléaires auxquels la Corée du Nord a procédé à ce jour, le premier étant en 2006, c'est incontestablement le plus fort. Pour la simple raison qu'il s'agirait d'une bombe H, une bombe à hydrogène basée sur la fusion et non pas la fission de l'atome. Et cette bombe est mille fois plus puissante qu'une bombe A. À titre d'exemple, la Tsar Bomba, qui est une bombe H testée par l'Union soviétique en 61, était 3300 fois plus puissante que Little Boy à Hiroshima, qui faisait 13 kilotonnes. Donc là, avec cette bombe thermonucléaire, c'est la deuxième fois que la Corée du Nord en teste une. Elle en avait testé une il y a un an, en janvier 2016, mais c'était encore très flou. On pensait que c'était une bombe hybride. Là, elle nous démontre clairement qu'elle a atteint un niveau de technologie extraordinaire.
Un progrès technologique, donc. Que cherche Kim Jong-un, qui est à la tête du régime de Pyongyang, à travers cet essai?
Alors, l'arme nucléaire, tout comme le programme balistique, sont aux yeux de la Corée du Nord une sorte d'assurance, puis la garantie qu'ils n'auront pas à subir, par exemple, le sort de l'Irak, et qu'ils pourront également dialoguer d'égal à égal avec Washington, puisque c'est ce que veut la Corée du Nord, qui sait que, elle, petite Corée du Nord, face à l'immense puissance américaine, n'est pas grand-chose. Et elle se sent menacée en permanence. Il faut dire que si nous voyons ces essais comme des provocations, la Corée du Nord, elle, considère être sous menace américaine, et les manœuvres militaires américano-sud-coréennes qui ont eu lieu jusqu'à la semaine dernière étaient considérées par Pyongyang comme une provocation directe de la part des États-Unis.
Alors dans ces circonstances, c'est plutôt un risque d'avoir un chef d'État américain aussi peu diplomate que Donald Trump ?
Je pense que pour l'instant, nous sommes dans une guerre de mots. Il s'agit de beaucoup de rhétorique et bien évidemment, Donald Trump aujourd'hui est en train de jouer avec le feu. Ceci dit, je pense que ni Donald Trump, ni la Corée du Nord n'ont intérêt à déclencher un conflit nucléaire. La Corée du Nord voudrait garantir sa survie et un conflit nucléaire pourrait la détruire totalement. Les États-Unis, d'autre part, ne veulent pas déclencher dans cette partie du monde, d'autant qu'ils n'auraient pas forcément l'appui des Sud-Coréens, qui ne veulent pas d'intervention américaine. Les États-Unis ne veulent pas déclencher un cataclysme. En revanche, on n'est pas à l'abri d'un dérapage. Un dérapage, c'est par exemple un missile comme celui envoyé la semaine dernière par la Corée du Nord au-dessus du Japon, un missile qui explose, le Japon riposte, la Corée du Nord riposte, et là commence un engrenage infernal qui pourrait déclencher en effet un véritable désastre.
L'Union européenne réclame de nouveaux trains de sanctions contre la Corée du Nord. Ça ne sert à rien selon vous ?
Ça ne sert strictement à rien. Depuis 2006, les sanctions de l'ONU, des Nations Unies, se succèdent un petit peu comme des réflexes pavloviens. On condamne, tout le monde condamne, y compris la Chine, mais ça n'a pas avancé d'un iota. Et la Corée du Nord ne se laissera impressionner ni par des sanctions même plus fortes, ni par des menaces. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui de démarrer un dialogue. Je ne parle pas de négociation au sens de d'accéder aux demandes de la Corée du Nord, mais un dialogue avec, comme le disait Jimmy Carter, l'ancien président américain, qui lui avait négocié une sortie de crise en 1994 avec la Corée du Nord. Il faut d'abord rassurer Pyongyang, puis peut-être démarrer des discussions pour un traité de paix sur la péninsule et après on pourra avancer et calmer la situation.
Merci Juliette Morillo d'avoir été l'invitée du journal de 18h en direct sur France Culture. Vous êtes l'auteur de La Corée en 100 questions aux éditions Talendier. À 3 semaines des élections législatives en Allemagne, c'est ce soir le seul face-à-face télévisé entre les deux principaux candidats, Angela Merkel et Martin Schulz. Le candidat social-démocrate, distancé dans les sondages, va devoir marquer des points s'il veut priver la chancelière d'un quatrième mandat. À Berlin, les précisions de Cyril Sauvageau.
C'est le moment que Martin Schulz attend depuis des semaines. L'occasion enfin de se mesurer à Angela Merkel en prime time pour montrer que lui seul incarne l'alternance.
Le 24 septembre, vous avez le choix entre une chancelière qui esquive tous les débats sur l'avenir du pays et quelqu'un qui dit vraiment les choses. J'ai été maire d'une petite ville, mais j'ai aussi dirigé pendant 5 ans le Parlement européen. Je suis la bonne personne pour devenir chancelier et diriger ce pays.
Face à ce challenger qui cherche encore à combler son déficit de notoriété, Angela Merkel n'a pas eu grand-chose à faire jusqu'ici. Mais pour éviter toute mauvaise surprise, la chancelière a imposé ses conditions pour ce débat. Pas de public et un simple face-à-face très traditionnel.
Je pense que le choix d'un débat à deux se justifie. Cela permet de se concentrer sur l'échange entre les candidats. Nous allons par ailleurs, Martin Schulz comme moi-même, participer chacun à 3 émissions en public sur différentes chaînes, ce qui permettra un dialogue avec les citoyens.
Largement favorite dans les sondages, la chancelière veut se contenter d'une campagne à minima. Martin Schulz, lui, espère convaincre les indécis. Pour 22% des électeurs, le débat pourrait jouer un rôle déterminant.
Correspondance à Berlin, signée Cyril Sauvageau. En France, quel avenir pour les chantiers navals STX à Saint-Nazaire ? Rome et Paris se sont donnés jusqu'à la fin du mois pour trouver une solution acceptable pour les deux pays. Après un projet de nationalisation sous la présidence Hollande, Emmanuel Macron a décidé de rouvrir le dossier et de proposer à l'Italien Fincantieri, le repreneur initial, 50% des parts. Mais pour l'instant, Rome refuse. Ce midi, le ministre des Finances italien a réclamé 51% de STX France. Et puis le Premier ministre Édouard Philippe a par ailleurs confirmé ce midi sur France Inter que l'État allait céder des parties de capitaux détenus dans des entreprises, pas forcément 100% et sans reprendre le mot de privatisation utilisé hier par le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui est en Italie. Mais l'objectif est le même, il s'agit d'alimenter un fonds de 10 milliards d'euros destiné à financer l'innovation, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est l'heure de la contre-attaque dans l'affaire Boris Faure. L'avocat du premier secrétaire PS de la Fédération des Français de l'étranger annonce qu'il va porter plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse contre MJ Delguerab. Le député La République En Marche, désormais mis en examen, est accusé d'avoir violemment agressé le socialiste mercredi dernier. Une affaire suivie par Grégoire Le Callot.
MJ Delguerab a assuré sur sa page Facebook que Boris Faure l'avait saisi au poignet et avait proféré des insultes racistes qu'un témoin dit avoir entendu. Faux, assure l'avocat du socialiste qui dénonce une défense basée sur la calomnie, dit-il. Patrick Klugman.
Ça a été l'invention de la calomnie. Et c'est ça qui fait Delguerab un homme dangereux. Parce que c'est un homme qui frappe, et c'est un homme qui, quand il frappe, se donne toutes les justifications, même imaginaires, de l'avoir fait. Imagine-t-on une seconde un député de la nation se faire justice à soi-même et après expliquer qu'on avait raison de le faire.
Boris Faure lui-même n'a pas pu prendre la parole. Il est en convalescence à Bruxelles et son état de santé n'est pas encore stabilisé. Sa femme Delphine Faure.
C'est difficile pour lui de... Enfin, il peut parler, oui, il peut parler, il peut manger. Je peux lui poser des questions, il peut raconter. Après, il est très, très fatigué. Son état, d'ailleurs, n'est pas encore consolidé. Dans les semaines qui vont venir, on devra encore évaluer les possibles lésions qui auraient été créées.
Et la plainte en diffamation et dénonciation calomnieuse sera déposée en début de semaine à Paris. Boris Faure avait déjà déposé une première plainte contre MJ Delguerab en mai dernier, suite à un tweet du député l'accusant de racisme.
Compte rendu signé Grégoire Le Callot. La météo de demain lundi, jour de la rentrée scolaire. Elle sera toujours nuageuse, cette météo est pluvieuse sur une grande moitié ouest. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Et les températures demain matin de 17 à 23 du nord au sud, 19 à 25 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique. C'était Myriam Guillou.